Le coup près du 4 mars se rapproche dans la course aux 500 parrainages pour les candidats à l'élection présidentielle des 10 et 24 avril. À cette date, tous les parrainages devront avoir été transmis pour validation au Conseil constitutionnel. À ce jour, seulement 130 élus locaux, départementaux, régionaux et parlementaires du Calvados ont accepté d'accorder les précieux sésames. C'est peu eu égard au nombre total d'élus dans le département et ça se vérifie d'ailleurs dans le Bocage, un territoire où les maires et maires délégués semblent particulièrement frileux à l'idée de donner leur parrainage. Sans surprise, le maire de Vire-Normandie, Marc-André Sabater, a parrainé le président de la République sortant, Emmanuel Macron. Trois élus de Val d'Allière ont parrainé Nicolas Dupont-Aignan qui est venu les rencontrer. Le maire délégué du Tourneur, Didier Duchemin, a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Patrice Mèche à Proussy a donné le sien à Christiane Taubira. Jean-Pierre Maurice à Pontécoulant l'a accordé à Nathalie Artaud, tout comme Laetitia Leresteux, maire déléguée de Viessois. Et c'est donc tout dans l'immédiat. Alors pourquoi les maires sont-ils aussi réservés à l'idée de parrainer un candidat à la présidentielle? Crainte de se le voir reproché par la population ou peur que cela soit considéré comme un soutien direct au candidat? Il y a sûrement un peu des deux. Nous avons demandé à Gilles Maloisel, maire adjoint à Vire-Normandie et maire délégué de Coulonce, pourquoi lui non plus n'avait pas souhaité donner son parrainage.
Chacun est tout à fait libre. Là, c'est un choix personnel. Personnellement, dans cette élection-là, je ne vais pas me positionner, tout simplement. Après, c'est une raison personnelle. Je soutiens des candidats quand il le faut. Donc là, c'est quand c'est dans la proximité. Après, sur des élections comme ça, c'est voilà, faut laisser un petit peu les choses se faire, faut attendre les débats.
Mais parce que vous estimez que vous, un parrainage, ça équivaut à un soutien.
C'est un engagement quand même. Donc voilà, après, chacun est libre, mais voilà.
S'il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas d'élection présidentielle.
Non, je pense justement. Alors, je crois que la période qu'on a vécue du Covid a éloigné un peu la démocratie. Moi, je suis pour, et je ferai une formule de vœux à la fin du mois de février pour que les citoyens comprennent quelle transformation de territoire on a à avoir. Il faut, dans la proximité, déjà, expliquer des choses. Et là, on a un côté rassurant.
Voilà. Vous estimez que c'est pas au maire, en fait, de parrainer les candidats?
Après, alors voilà, c'est la difficulté. Il faut quand même qu'il y ait des candidats qui puissent, quel que soit leur parti, se positionner. Je pense qu'en France, si on n'est pas en capacité de les trouver, c'est... Peut-être qu'il y a une difficulté, peut-être une difficulté parlementaire, je ne sais pas, mais voilà.
Mais si aucun maire ne parraine, aucun candidat ne se présente.
C'est la limite du raisonnement, donc voilà. Et effectivement, il faut qu'il y ait du débat. Je pense qu'il faut toujours qu'il y ait un esprit de synthèse dans les enjeux et permettre aux candidats de s'exprimer. Et peut-être qu'on trouvera peut-être plus d'adhésion, tout simplement.
Mais en tout cas, vous ne parrainerez personne.
Pour l'instant, j'en suis sur ce format-là.
Et les élus n'ont donc plus qu'une petite dizaine de jours pour parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Parmi les candidats qui courent justement après leurs 500 parrainages, Éric Zemmour, le patron du parti Reconquête, en cherche encore environ 200. Éric Zemmour, qui était samedi en Normandie avant de tenir un meeting face au Mont-Saint-Michel, le candidat d'extrême droite a fait une halte à Port-en-Bessin, accompagné par sa nouvelle recrue, l'eurodéputé ex-Rassemblement National Nicolas Bay. C'est d'ailleurs lui qui a accueilli le candidat dans le premier port de pêche normand samedi matin.
Je suis très heureux voilà, de pouvoir m'impliquer pleinement dans cette campagne à ses côtés. Je crois que plus que jamais que les Français attendent beaucoup de sa candidature.
Suivi par un parterre de journalistes, Éric Zemmour a pu croiser sur le ponton la maire de Bonneville-la-Touque, Florence Côtier, qui lui a apporté son parrainage.
Vraiment, je vous remercie. J'étais une inconditionnelle, donc j'ai pas eu beaucoup de mérite. À vous.
Si, vous avez du mérite. Je vous remercie. Grâce à vous, regardez, vous avez vu. Merci, à bientôt.
Éric Zemmour a ensuite pu échanger pendant un bon quart d'heure avec une demi-douzaine de professionnels de la pêche, dont Philippe Calonne, pêcheur et représentant du collectif Citoyen des Mers, opposé aux éoliennes en mer.
Très clairement, on a des méthodes de pêche industrielle qui nous impactent énormément aussi. On a le Brexit qui nous a fait très très mal, mais qui nous a mis aussi une belle cartouche. Donc voilà, on est en difficulté et on cherche vraiment des appuis politiques. Et peu importe, nous on est des démocrates, que ce soit... N'importe quel homme politique, on le reçoit, on lui explique nos problèmes. Après, on fait pas de politique, moins c'est pas du tout notre truc. C'est pour ça qu'on a reçu M. Zemmour. On a réfléchi un peu avant, mais personne nous en veut. Même les assos avec lesquels on travaille nous ont dit oui, il faut absolument. On est trop en péril pour éviter de faire de la com, quoi. Une écoute, c'est déjà bien. Je sais pas ce qu'il pourra faire, mais dans tous les cas, nous ce qu'on veut, c'est parler à un maximum de partis politiques. Ils sont tous bienvenus, quoi. Même M. Macron, s'il veut venir parler avec nous, il est le bienvenu. On a plein de problèmes, il nous ignore tous.
Éric Zemmour a quitté la cité portaise après avoir pris un cliché à bord du chalutier le Grand Charles. Sans avoir croisé le maire de Port-en-Bessin, Christophe Vendroy, il n'avait pas souhaité en effet être associé à la présence sur sa commune du candidat d'extrême droite. Ce sera maintenant au tour de Valérie Pécresse de venir en Normandie. La candidate de la droite se rendra sur les plages du débarquement avant de tenir un meeting à Caen samedi prochain. Elle sera accueillie par l'élu du Bessin, Cédric Nouvelot, qui coordonne son comité de soutien dans le Calvados. Un comité qui a d'ailleurs prévu de tenir une réunion publique dans le bocage, ce sera à Saint-Germain-de-Talavande, jeudi soir à 18h. Dans l'actualité également, un accident de poids lourd qui s'est produit samedi matin à proximité du rond-point de Coulvin sur la départementale 675 en direction de Villers-Bocage. Une remorque attelée à un poids lourd chargé de matériel de travaux publics s'est couchée sur la chaussée. Heureusement, aucune victime à déplorer. Le camion appartenait à l'entreprise viroise Thème, spécialisée dans l'énergie. La route a été fermée pendant les opérations de dégagement. Une déviation a été mise en place à hauteur de Maison-Selpelvé. Rendez-vous organisé par le Centre culturel Léopold Sédar Senghor de Port-en-Bessin cette semaine pour découvrir l'activité portuaire et économique le long des quais. Une visite sur la pêche de la coquille et les différentes espèces de poissons, les pêcheurs, les différents types de bateaux de pêche également, les outils de pêche, les infrastructures, les divers métiers liés à la pêche artisanale. Visite par exemple ce lundi donc et jeudi sur cette thématique, mais aussi sur la thématique du chantier naval ce lundi après-midi, sur le port de Paul Signac et de Georges Seurat jeudi à 10h30. Et sur le port en juin 44, vendredi matin à 10h30. On passe au sport maintenant et au football, quand on n'arrive décidément pas à enchaîner cette saison. Les Canets se sont inclinés sur la pelouse de Pau samedi soir, 1-0 pour le compte de la 25e journée de Ligue 2. L'unique but de la partie a été marqué peu avant l'heure de jeu. Les Canets ont pourtant réalisé un bon match dans l'ensemble, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. L'entraîneur Canet, Stéphane Moulin.
C'est compliqué de faire l'analyse ce soir parce qu'on a vraiment bien maîtrisé notamment la première mi-temps. Comme souvent, on doit rentrer à la mi-temps avec un avantage. Et puis malheureusement, on est à 0-0 et on concède un but venu un peu d'ailleurs, encore une fois. Et après, on s'expose évidemment, mais c'est plus du tout le même match. Nous aurions dû être devant, mais on a manqué de justesse technique. Je crois que les stats sont là pour le dire. 18 tirs à 8 pour une équipe qui joue à l'extérieur, c'est énorme, mais seulement 3 tirs cadrés. Donc voilà, et en plus, sur les tirs cadrés, leur gardien a fait le travail. Donc c'est une défaite qui remet pas en cause le contenu, parce que je trouve qu'on a bien abordé la rencontre et on a vraiment fait preuve de maîtrise. Après, le but a tout changé, comme souvent, et on n'a pas été en capacité de revenir. C'est des histoires qui se répètent tellement souvent que j'ai l'impression de me répéter. Et pourtant, dans la manière d'aborder la rencontre, dans la manière de la jouer, j'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. On peut pas dire aujourd'hui qu'on a vu une équipe qui a été apathique ou qui n'a pas entrepris, loin de là. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi.
Et au classement, Caen perd donc 2 places et se retrouve 14e avec 29 points. C'est 4 de plus que le barragiste Grenoble. Les malherbistes recevront Bastia d'Ornano samedi prochain. Le foot encore avec la qualification des U18 du Stade Malherbe de Caen pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella. Les jeunes malherbistes se sont imposés 3-0 hier après-midi à Brest. De tout cela, on en parlera évidemment dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand ce lundi soir à partir de 18h15. Un débrief consacré, une fois n'est pas coutume, au foot féminin.